Les héroïnes, une heure avec des meufs.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sang.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane, bienvenue dans Les héroïnes, une heure avec des meufs. Aujourd'hui, avec moi dans les studios de Canal B, ma fidèle et brillante alliée. Oui, Marine, votre siège fait du bruit. Donc Marine Combe, vous l'aurez reconnue sous vos applaudissements.
J'adore ce début d'émission.
Je vous le referai à chaque fois si vous voulez, Marine. Marine, vous êtes fondatrice et rédactrice en chef du magazine féministe YEG, que l'on retrouve sur yegmag.fr. Aujourd'hui, avec vous, Marine, nous recevons deux invités avec lesquels nous allons parler de deux événements importants qui se déroulent à Rennes demain et le 15 juin. Nos invités sont Tess et Amy. Hémisphère. Bonjour à vous et bienvenue dans Les Héroïnes.
Bonjour.
Tess, vous êtes créatrice de L'Hystérique,
c'est ça.
Une marque de broderie queer et féministe. Hémisphère, vous êtes la créatrice de, alors j'espère que je prononce bien, vous allez me reprendre sinon, Shep of Art.
C'est ça.
Et Amour Indélébile.
Oui.
Ça, j'aime beaucoup Amour Indélébile comme bien trouvé. Et demain, samedi 1er juin, de 14h à 19h à l'Attrape-Rêve, 37 rue Saint-Melaine à Rennes, vous organisez un marché des queeriosités. Là aussi, super trouvaille, j'adore.
Merci.
L'idée, c'est de présenter et de vendre des créations réalisées par des artistes LGBTQIA+. Alors déjà, avec Marine, on avait très envie de parler de cet événement à nos auditeuristes, mais d'aller aussi plus loin et d'évoquer avec vous la place des créateuristes LGBTQIA+, dans l'artisanat, et aussi l'impact des représentations de porter un vêtement, un bijou, une broderie, un pins, une broche queer et militant. Mais d'abord, on va vous laisser vous présenter et puis nous parler peut-être un peu de vos créations. Tess ?
Oui, je vais commencer. Moi, je suis Tess, donc je suis créatrice de L'Hystérique, une marque de broderie féministe et queer. Je vends principalement des t-shirts brodés à la main, mais aussi d'autres accessoires. Et du coup, je suis co-organisatrice du marché des curiosités avec Amy.
Amy ?
Alors moi, je suis une artiste un peu comme une boule disco multifacette, donc je touche un peu à tout. Je fais de la peinture, de la sculpture, du tatouage, des créations bijoux aussi. Et donc, comme Tess, on a créé notre petit bébé, là, le marché des curiosités, qui arrive très très bientôt.
Et ouais, c'est déjà demain.
Et avant justement de parler de ce marché des curiosités, on avait envie, comme l'a précisé Morgane, d'évoquer un petit peu la place des créatrices dans l'artisanat. Est-ce que aujourd'hui les personnes queer ont la même visibilité dans l'artisanat et l'art que les autres ?
Je pense que globalement, comme tout autre artiste queer, on est beaucoup moins visibilisé. Et au niveau des créatrices, ça se passe surtout par rapport aux opportunités en fait de marché, et on en a beaucoup moins du coup, surtout sur le thème queer, militant, féministe, etc. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on est moins visible. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé le marché des curiosités, c'est pour avoir cet espace safe où on va avoir en fait un public qui va déjà être sensibilisé à la cause. Et donc, du coup, qui ne va pas juger nos créations, etc. Donc, c'est toujours plus sympa, je pense, d'avoir des lieux comme ça, contrairement à d'autres marchés où, du coup, on peut avoir un public qui ne comprend pas, qui ne connaît pas du tout, où il faut plus faire de l'éducation au lieu de la vente. Et donc, du coup, c'est un peu moins pratique pour nous. Et voilà quoi.
Et puis si je veux rebondir sur ce que dit Tess, c'est vrai qu'on, vu qu'on est très militants et militantes dans toutes nos créations, en fait on peut se retrouver à être invité à des marchés où on peut nous dire bah ça c'est trop militant pour nous, et il y a d'autres créations qui peuvent être totalement vendues, qui peuvent être exposées, comme moi je fais beaucoup de floral, ça il y a pas de souci, mais dès que je rajoute des petits mots, des petites phrases un peu trop militantes, ça peut direct couper court en fait, et le fait qu'on soit queer, ça y joue totalement, ça c'est sûr, ouais.
Ouais, c'est quand même dingue, hein, de mi-2024 d'en être encore là. Ouais. Bah pareil, je rebondis. Est-ce que, comme dans la société qui est majoritairement binaire, vous ressentez une hiérarchisation dans la visibilité ? Est-ce que, par exemple, il y a plus de choses qui s'adressent aux hommes gays, j'entends, qu'aux lesbiennes, voire aux trans ou aux non-binaires ? Est-ce qu'on a la même hiérarchisation
Bah, je pense que oui, il y a vraiment d'abord eu un gros mouvement où on parlait plus des personnes gays, ouais. Des hommes, du coup, évidemment. Et donc, du coup, beaucoup moins des personnes trans, non-binaires, etc., ou même des personnes racisées. Ça commence tout doucement à se développer. Il y a quelques événements qui fleurissent petit à petit. Mais c'est encore un peu timide, et puis les places sont assez rares, du coup, vu qu'il
y a très cher.
Ouais, ou très cher, où il faut se déplacer à Paris, etc. On a un peu plus de choses, ouais. mais voilà.
Bah, c'est ça le truc, c'est qu'en local, en fait, et nous, c'est pour ça qu'on a créé ce marché, c'est que c'est compliqué. C'est, à chaque fois, c'est aller sur Paris, sur Bordeaux, sur Lyon. Bah, c'est pas sans rappeler qu'il y a quand même une certaine précarité, hein, et que de se dire, bon, bah voilà, faut payer le déplacement, le logement, faut payer la place aussi, donc c'est un peu compliqué. Et souvent, ouais, c'est plus proposé à des personnes qui, comme je disais, sont moins militantes, mais aussi qui sont pas forcément non-binaires, qui sont pas forcément une personne en transition ou une personne trans, donc ouais, il y a une certaine hiérarchisation quand même un peu.
Je rebondis sur le côté géographique, là vous avez mentionné justement d'aller à Paris ou dans d'autres villes, il y a aussi la question qu'on avait envie de vous poser sur, sur la temporalité, là on arrive en juin, mois des fiertés, mois de visibilité hein, des personnes queer et des enjeux politiques de la communauté LGBTIQ+, qu'est-ce qu'il en est pour les créatrices comme vous, le reste de l'année ? Est-ce que, du coup, c'est des focus qu'on fait beaucoup plus en juin qu'à d'autres moments ?
Bah ouais, oui. Le mois de juin, c'est la Pride Month. Donc forcément, en fait, là, on va booker tous les artistes queer, tous les artistes LGBT. Mmh. Et le résultat, c'est un peu des batailles, en fait. C'est un peu de se dire, bah, ok, votre marché, il est féministe, mais en fait, il y a des féministes queer de partout, en fait. Et nous aussi, on veut être là. Nous aussi, on veut venir. On veut qu'on soit vu et entendu, et pas juste pendant un mois. Et c'est pour ça que nous, on a choisi une date précise où il n'y avait pas de Pride ou quoi que ce soit. Pas d'événement particulier, en tout cas, qui ferait que les autres ne pourraient pas venir. Enfin, la plupart des gens. Et on s'est un peu battu aussi pour cette date. Enfin, ça a été un choix très politique, là aussi.
Ouais, ouais, ouais. Et puis, il y a vraiment aussi ce truc-là de... il y a énormément d'entreprises qui vont venir cibler le mois de juin spécifiquement pour que ça, en fait. Mais le reste de l'année, rien du tout. Alors que du coup, nous, on crée vraiment toute l'année. Et toute l'année, on a aussi besoin de revenus, etc. Ouais. Et donc du coup, voilà, c'est aussi, ouais, c'est un peu plus une bataille qu'on est hors juin, mais voilà, on essaie de s'en sortir.
Ouais, et puis nous, ça fait quand même plusieurs mois qu'on travaille sur ce petit bébé où on a, même pour les affiches, on a ciblé des lieux où on s'est dit il y a des lieux queer, mais on va faire aussi des lieux pas queer parce que le but c'est d'être visibilisé par tout le monde, partout, tout le temps.
Ouais, bah ouais, ouais.
Et est-ce que il y a de plus en plus de créatrices qui se revendiquent appartenir à la communauté, vous qui êtes au cœur?
Je pense que globalement, vu que la communauté LGBT est encore vraiment en besoin de visibilisation, d'identification, il y a pas mal de créatrices queer qui vont venir en fait répondre à ce besoin-là, parce que on a besoin de voir des objets, des choses dans notre entourage qui nous fait nous dire qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas tout seul à être discriminé, etc. Et que, ouais, qu'on est fier de porter ça. Et du coup, voilà, c'est bien de plus en plus se montrer aussi aux yeux même des personnes qui sont pas LGBT dans la rue, etc. Donc, ouais.
Et oui, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui se revendiquent queer qui ne le faisaient pas avant parce qu'on leur permet, en fait, on leur accorde la place qui leur est due, en fait, juste tout simplement. Et oui, bah, je suis artiste, ok, mais je suis aussi queer et regardez ce que j'en fais. Mmh.
Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la réappropriation des savoir-faire ? Je pense notamment à la broderie où on connaît aussi tout ce discours sur la réappropriation de la broderie qui longtemps, enfin, c'était féminin, mais dévalorisé parce que féminin. Mmh. Et par contre, bah, tout ce qui était très professionnel, comme d'habitude, ça c'est les hommes qu'on a retenus, hein, en tout cas dans l'art. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi pour vous ?
Après, pour la broderie, c'est sûr qu'on est passé d'un art qui a été fait juste par des femmes bourgeoises qui, voilà, qui du coup n'avaient pas grand-chose à faire dans leur journée, à vraiment un outil pour se réapproprier et militer de cette manière-là. Et c'est super chouette quoi, de voir ça, de voir cette évolution. C'est devenu une arme, quoi.
Moi, en tout cas, Tess, mais j'en vois une très très jolie sur, sur votre t-shirt, Tess, ouais, oups, la maison brûle, qui donne bien envie de venir demain. Pardon, Tess, je vous ai un peu coupé la parole.
Non, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'au niveau réappropriation, je suis assez d'accord. Par exemple, moi qui commence un peu dans le tatouage, voilà, j'ai un entourage très bienveillant, mais quand je dis, voilà, je fais du tatouage, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise, ouais, mais t'es une meuf, tu vas galérer comme toutes les meufs. Bah non, en fait, oui, je vais galérer, mais en fait, je vais tout faire pour pas galérer et pour pas que, bah, en fait, les sœurs, elles ne galèrent pas non plus, quoi. Donc, ouais, je suis assez d'accord sur ça.
Ouais, parce que là, il y a le constat, tu vas galérer, mais on ne fait rien pour que, voilà,
c'est factuel. Ouais. Tu galères.
Alors, pour parler de ce qui va se passer plus précisément demain, qu'est-ce qu'on pourra voir, trouver, acheter au marché des curiosités à la Trappe-Rêve?
Ah ben, on a la chance du coup d'avoir plein d'artistes merveilleux et merveilleuses avec nous, donc on a un peu de tout. On a de la broderie, de la photo, beaucoup. On a des créations en point de croix, on a des bijoux, des créations en résine, des prints, des peintures, des porte-clés, des badges, des stickers. Vraiment, on va trouver de tout. Là, on a tout brassé en étant plusieurs.
Ouais, c'est ça. Et puis du coup, on a aussi choisi cette date-là juste avant la Pride de Rennes, du coup, qui est le 15 juin, pour que les queeros rennais puissent choper des petites créations pour être un peu stylés pour la Pride, tout ça, ou même pour juste leur intérieur. Ouais. Et du coup, voilà.
C'est ce qu'on a dit. Ouais. Nous, on veut que les gens ils brillent de mille feux sur elles, ouais, et aussi dans leurs intérieurs. Voilà, à double signification, du coup, donc on a vraiment fait plein de choses différentes.
Et justement, vous parliez de la Pride, c'était le deuxième événement important du mois de juin, dont j'ai pas parlé, on voulait en parler plus tard le 15 juin, donc il y a la marche des fiertés à Rennes, effectivement. Mm.
Moi, je reviens, vous avez un petit peu évoqué le fait justement de pouvoir se parer d'accessoires, de bijoux, de vêtements qui délivrent un message, qui disent nous aussi on appartient à la communauté LGBTIQ+, et on revendique cette fierté. Qu'est-ce qu'il en est de votre point de vue, des personnes qui n'appartiennent pas à la communauté LGBTIQ+, qui peuvent par exemple, féministes, etc., ou même pas se revendiquer féministe, qui porte du coup ce type d'accessoire. Qu'est-ce que pour vous ça signifie ? Est-ce que c'est une marque des alliés, ou est-ce que vous le voyez un petit peu comme une récupération ?
Tout dépend de qui récupère. Est-ce que c'est des entreprises qui vont se mettre un petit drapeau LGBT sur leur logo juste pendant parce que c'est le mois de juin ? Ou est-ce que c'est des personnes pas LGBT, mais qui ont d'autres personnes queer dans leur entourage et qui ont envie vraiment de soutenir la cause, etc. Enfin, moi, je trouve pas que...
C'est vrai que moi non plus, ça me dérange pas. Je suis d'accord avec Tess. Tout dépend en fait du fond et de pourquoi. Mmh. Pourquoi, en fait ? Parce que les alliés, nous, on en aura toujours besoin et on les aime, en fait. Et elles sont là pour nous et on est très, très contents et contentes. Mais les récupérations, comme il y a tout le monde de gens, comme disait Tess, ça, c'est un enfer. Et on le voit, il y a déjà des marques qui commencent à le faire, qui ont commencé au mois de mai, en fait.
Oui, ça c'est le truc insupportable du washing. Difficile même à voir, et aujourd'hui c'est de plus en plus dénoncé. Est-ce que vous, en tant que créatrice, vous avez déjà eu ce ressenti d'une peur chez certains et certaines de porter ce que je vais appeler des signes ostentatoires de curiosité en dehors de la marge des fiertés dont on vient de parler? Est-ce que vous l'avez entendu, remarqué?
De la peur des gens à porter en fait ça dépend qui, parce que ça dépend des messages aussi à porter. Et par exemple, moi j'ai fait une nouvelle collection là il n'y a pas si longtemps, du coup vraiment sur le thème plus queer, et j'ai un t-shirt avec écrit contre nature par rapport à il y a plusieurs années, je pense plus notre génération, du coup on avait vu un interview d'une femme qui disait que les homosexuels c'était contre nature, etc. Donc c'est aussi de la réappropriation, mais parfois pour certaines personnes ça peut être très dur à apporter parce que c'est encore des mots très violents. Et voilà, et c'est vrai qu'on a tendance aussi à faire beaucoup de réappropriation parce qu'on a besoin que ces mots-là n'aient plus de poids pour nous.
Ouais, et puis au-delà de ça, en fait, c'est qu'on est tous et toutes différents dans la façon de militer. Et nous, on entend très bien qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas venir en manif, qui ne peuvent pas venir à la Pride et qui ne peuvent pas porter ces t-shirts parce que c'est compliqué, mais qui pour autant vont militer de plein d'autres façons, même pas publiquement, en fait. Et ça, nous, c'est ce qui nous importe le plus, c'est que ces personnes se disent « Ok, en fait, il y en a qui le font, il y en a qui le portent, et c'est trop bien. »
Et moi, je pense aux footballeurs qui refusent de porter un drapeau LGBT pour soutenir la cause. Est-ce que vous voyez une évolution des mentalités par rapport à ça, outre ces événements quand même qui apportent un message, enfin voilà, c'est clairement homophobe et à une diffusion massive, quoi. Ouais.
Moi je pense qu'il y a en fait, vu que du coup il y a eu le mouvement MeToo, etc., on parle beaucoup plus quand même des personnes LGBT, jamais assez, hein, mais on en parle un petit peu plus. On a eu vraiment ce retour-là de bâton homophobe et sexiste aussi il y a quelques années. Et là, c'est comme c'était l'année dernière où du coup, au moment de la Pride, on a eu un message LGBT-phobe sur une grue.
Sur une grue, ouais.
Ouais, c'était l'an passé, à Paris.
Donc, c'était à Paris.
Ouais, il me semble. Hein.
Je crois que c'était à Rennes.
À Rennes. Il y a tellement de messages. c'était l'an passé, ouais.
Ouais. Okay. C'est un peu à double. Ouais, c'est un peu ambivalent parce que, par exemple, dans les universités, il y a énormément de messages transphobes, homophobes et tout ce qu'on veut. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a toute la communauté qui va repasser derrière, ou même des alliés, et qui vont juste les recouvrir avec des mots bien plus bienveillants. Et donc, oui, publiquement, moi, je trouve qu'il y a de plus en plus d'actes comme ça de. Voilà, il faut qu'on insulte, il faut que ce soit public, il faut que ce soit vu par tout le monde. Mais que derrière, il y a toute une petite compagnie de lutins là, qui viennent et qui recouvrent tout pour dire en fait, nous, on ne veut pas ça dans nos rues. Et non, on n'attise pas la haine.
Et par rapport à cette évolution, est-ce que, de la même façon, à l'inverse, il y a une forte demande, peut-être, de se revendiquer par des accessoires, des slogans, des couleurs? On y reviendra aux couleurs et aux drapeaux à la fin. Ouais, parce que j'aimerais bien une explication pour nos auditorices sur. Parce qu'il y a plusieurs drapeaux. Et est-ce que ça fait partie de cette volonté de revendiquer de plus en plus forte
Par rapport aux drapeaux
ou aux couleurs, aux accessoires, à vos broderies
Visuellement, je sais pas, je pense que toi c'est pareil. Mais quand on est dans la rue et qu'on voit quelqu'un avec un petit tote bag rainbow,
you know what I mean.
Directement, on se dit c'est quelqu'un qui est dans notre team, entre guillemets. Ouais. Et c'est super rassurant. Et le fait que graphiquement, ça pète aussi, parce que voilà. Ça accroche directement le regard.
Ouais. Ça fait d'air, en fait, totalement, de se dire, en fait, on est plusieurs, on est visible. C'est juste que, on le fait de différentes façons, mais on est là, en fait.
Mais pas tout seul.
Ouais, c'est ça.
Est-ce qu'on peut justement décrypter les drapeaux, les différents drapeaux, donc lesbiens, gays. Il y a des couleurs qui se sont ajoutées au fur et à mesure. On n'est plus juste sur un arc-en-ciel classique.
C'est ça, je fais.
Vas-y.
Alors du coup, on avait le drapeau arc-en-ciel de base, et ensuite, je sais plus combien d'années ça a changé. Ça fait un petit moment maintenant où du coup, le drapeau est devenu plus inclusif. On va avoir les couleurs des personnes trans. On va avoir aussi des couleurs pour parler des personnes racisées. Et on va aussi avoir les personnes intersexes.
Ouais.
Du coup, avec le petit cercle violet sur fond jaune.
Mais tout ça, on peut le retrouver aussi sur le site du marché des curiosités. Non, vous l'avez, hein, ou en tout cas, on a regardé ça il y a deux jours avec Marine, non hein, c'était mardi hein, qu'on a travaillé. Et on peut le retrouver hein, pour ceux qui voudraient tout comprendre. Alors, on le rappelle, ça se passe demain, 37 rue Saint-Melaine à La Trappe-Rêve, de 14h à 19h. Ça s'appelle le marché des curiosités. Pour la dyslexique que je suis, c'est j'adore l'invention, mais voilà, c'est faut que je m'entraîne. C'est organisé par nos invités Tess et Hémisphère, et puis aussi dans 15 jours il y aura la marche des fiertés le 15 juin à Rennes. Alors bien sûr, moi j'ai envie parce que Marine et moi nous n'appartenons pas à la communauté en tant que femme cisgenre hétérosexuelle. Néanmoins, j'ai envie de m'adresser aussi à ces auditeurs là, de dire venez aussi, vous passez au marché demain, vous achetez un petit de l'artisanat pour aller ensuite le 15 juin participer aussi à la marche des fiertés, parce que il faut de plus en plus de monde et des alliés, comme vous le disiez. On vous y verra le 15 juin, Tess, Hémisphère.
Bien sûr.
Alors, Tess, oui.
Toi,
moi,
non. Toi, t'as un mariage.
Moi, j'ai un mariage d'amis totalement hétéros, mais très, très proches.
Il y a des priorités. Voilà,
exactement.
Les amis proches, même hétéros.
C'est ça. Mais je serai à celle du 8 juin, du coup, à Nantes, pour le coup.
Eh bien, merci beaucoup, Tess et Hémisphère.
Merci à vous.
On va faire une première pause musicale dans Les Héroïnes sur Canal B, mais pas n'importe laquelle. En mars dernier, l'artiste musicienne Émilie Rougier, organisée avec HF Plus Bretagne, la Maison de Disques Cartel et le Jardin Moderne, le Matri Music Party 2, autour du matrimoine musical rennais qui mettait notamment en avant tout son travail de recensement des musiciennes rennaises pour lutter contre leur invisibilisation. Elle en a fait une compile, Émilie Rougier, à destination des radios associatives. Merci Émilie, c'est 56 minutes 29 secondes de son au féminin et ça fait vraiment du bien. Et moi, dans toute cette compile, j'ai choisi deux titres. Le premier, c'est celui de Sarah Maï, J'ai mal dormi.
C'est ennuyeux, mais la nuit tombe.
Sarah Maï, je crois que ça se prononce comme ça, j'ai mal dormi, sur Canal B dans les héroïnes, c'est tissu de la compile concoctée par Émilie Rougier, artiste musicienne, autour de son gros travail de recensement des musiciennes rennaises. Et justement, puisqu'on parle musique, Marine, je crois que vous vouliez nous parler d'un festival.
Oui, c'est la deuxième édition du festival queer et féministe musicienne, hein, qui est organisé par l'association éponyme, qui met du 5 au 9 juin à l'honneur une bonne quinzaine de projets musicaux portés par des personnes sexisées de Rennes. L'objectif, c'est de visibiliser, valoriser et faire découvrir tous ces groupes et talents et questionner la place des femmes et minorités de genre dans la musique. Donc ce sera du 5 au 9 juin, entre autres à l'Autruche, c'est un bar rue Le Graveran, au Café des Champs Libres, à la ferme de Quincé, à Bourgard, à la salle de la Cité et à l'hôtel Pasteur. C'est top, ça promet de belles soirées de découverte musicale et de joie militante, même si il n'y a pas besoin d'être militant ou militante, hein, pour s'y rendre. C'est tout le principe, investir justement des lieux pas étiquetés féministes et queer pour permettre à d'autres publics de profiter des concerts et au passage de réaliser qu'en effet le talent n'a pas de genre et que par conséquent il n'y a pas de raison que les mecs cis prennent plus la scène que les autres.
Ouais, mais il y a encore... Du pain sur la planche.
Exactement.
Marine, vous allez également, on reste dans la culture, vous êtes notre caution culture, je serai la caution politique tout à l'heure. Marine, vous avez lu, on a lu en fait, une BD, vous me l'avez prêtée. Moi, je veux être une sorcière, ménopause, le dernier tabou.
Oui, c'est une BD de Marie Pavlenko et Joséphine Onteniente, je ne sais pas si on dit comme ça. En tout cas, c'est super, je me suis régalée, je la recommande vivement, hein. C'est drôle, vivant, sensible, libérateur. Une tranche de vie en fait, dans laquelle on suit une protagoniste dans un voyage à l'intérieur de son corps et de son utérus, mais aussi dans laquelle plusieurs concernés partagent leur quotidien, difficultés, vécus, expériences, questionnements, leurs espoirs, leurs anecdotes rigolotes, leurs colères, leurs émancipations face aux attendus, face aux tabous, face au silence, face à l'invisibilisation réservée aux femmes qui dépassent 50 ans. Et ça fait un bien fou. Alors moi, je ne suis pas encore concernée par la ménopause. J'ai même pas encore 40 ans, mais je vais l'être tôt ou tard. Je ne sais pas encore ce que me réserve l'avenir et mon corps. Mais c'est comme la question des règles, de la grossesse, de l'accouchement et tout ce qui a trait en fait à un changement hormonal, physique, psychologique, du côté bien évidemment des femmes. Le corps, il est en mouvement et selon les étapes de la vie, ça secoue plus ou moins fort. Et ce qui est brutal dans tous ces changements, c'est l'ignorance, voire l'indifférence, le tabou, la gêne, la honte qui nous mène au silence et qui entrave nos existences. Alors ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se renseigner sur ce qui va arriver, mais toujours pareil, hein, avoir le choix, la possibilité d'accéder à l'information, avoir des espaces de parole et de partage, avoir des lieux de transmission, avoir les mots pour nommer les mots, les souffrances, les douleurs, l'isolement, la solitude ressentie, mais aussi tous les éléments positifs que cette période de renouveau procure. Et c'est ça qui est génial dans la BD, c'est qu'elle raconte, relate, décrivent leur vécu et ressenti sans tabou et font état d'un sentiment de libération et de liberté, de sérénité qui se conjugue avec des états émotionnels et physiques pas toujours simples à gérer ou à accepter, mais au moins on se sent moins seul, moins en panique face à ce voyage périlleux qui nous attend ou qu'on traverse. Je sais, Morgane, que vous aviez envie de réagir et puis après je vous donnerai des infos si vous voulez aller plus loin.
Merci Marine, ouais, je vais réagir parce qu'effectivement c'est un chemin que j'ai emprunté il y a quelques mois, on appelle ça la périménopause. Moi la BD m'a beaucoup plu, il y a notamment tout ce passage sur le Japon et la façon dont le Japon considère cette période de la vie qui on devrait je pense s'en inspirer. J'aime beaucoup aussi le voyage dans le corps où il y a toutes ces la façon dont l'héroïne, la protagoniste est surprise parce que c'est ça, en fait, ça nous pète un peu à la gueule. Après, moi, le seul reproche, je vous en ai parlé, Marine, c'est que nous avons plusieurs femmes dans un salon qui parlent chacune de leurs symptômes, hein, parce que ce sont des symptômes. Et j'aurais voulu qu'on explique que tous ces symptômes peuvent se retrouver en une seule femme et que c'est là que ça vient problématique parce qu'en fait la ménopause c'est un sujet de santé publique qui touche 14 millions de femmes. 500 000 femmes entrent en ménopause chaque année en France, un demi-million tout de même, et puis une femme vivra en moyenne un tiers de sa vie en période monopausique 94% des femmes de 45 à 50 ans sont touchées par au moins un des symptômes de la ménopause. Et c'est vrai, la BD porte bien son nom, c'est le dernier tabou féminin à faire tomber. Parce que la ménopause, et moi je vous spoil, vous allez en chier, hein, Marine et toutes les autres, et tous les autres. Parce que la ménopause, ben, c'est se réveiller tous les matins épuisé, avec mal partout, après une nuit agitée d'insomnie et de bouffées de chaleur, mais se lever quand même. Subir des cycles menstruels complètement déglingos, qui se pointent quand ils veulent, sans prévenir, parce que sinon ça serait trop simple, sans carton d'invitation. Toc, 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 c'est nous. Mais ouais, mais vous étiez là il y a 10 jours, bordel. Ouais, on s'aime, t'inquiète. Après ça, on va pas revenir pendant 3 mois. La ménopause, c'est supporter un syndrome prémenstruel quotidien pour certaines et certains. Des maux de tête, une perte de poids, une augmentation de la pilosité, une sécheresse vaginale, un relâchement cutané quand ce n'est pas de l'acné, des troubles urinaires comme les incontinences ou les infections, merci cystite, des troubles de la mémoire et de l'irritabilité. C'est charmant, n'est-ce pas, hein ?
Ça a l'air, en tout cas.
Joli tableau, hein ? Alors, quand vous avez plusieurs de ces symptômes, autant vous dire que vous passez de bonnes journées. En fait, la ménopause, c'est tout ton être qui se déglingue et part en sucette. Selon l'INSERM, 20 à 25% des femmes en périménopause ou ménopausées souffrent de troubles sévères qui affectent leur qualité de vie. Parce qu'il y a ce pourcentage de femmes qui vont vraiment être sur des symptômes sévères. Et puis, bah, bien sûr, tout cela est, comme vous l'avez dit, Marine, totalement insuffisamment pris en charge. On s'en bat les ovaires, hein, des femmes après 45-50 ans. Et c'est vraiment très, très injuste. Voilà.
Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler et de parler aussi du foisonnement qui y opère. Hein. Il y a le livre d'Élise Thiébaud, Ceci est mon temps, qui parle de la ménopause, mais aussi de l'andropause, parce que oui, les hommes aussi passent par là. Et puis l'essai de Marie Charel, Qui a peur des vieilles, ou encore celui de Maïtena Biraben, La femme invisible, ou encore celui de Fiona Schmidt, Vieille peau, les femmes, leur corps, leur âge, pour n'en citer que quelques-uns. Donc des espoirs et des éclairages qui viennent nous réconforter, nous conforter hein, dans l'idée que le patriarcat, c'est pas une vue de l'esprit, ça s'atténue pas malheureusement avec la cataracte, mais bel et bien un système tout pourri qui est à déconstruire de nos 0 à 110 ans et plus.
Merci Marine, ne lâchez pas le micro. Vous allez à présent, Marine, nous parler des violences sexuelles, de la revendication d'une loi prenant en compte le consentement, le moi aussi tout blanc, tout ça tout sort.
Exactement, il y a cette montée des marches, il y a ce geste symbolique des actrices hein, qui croisent les mains devant leur bouche, un geste puissant porté par Judith Godrèche, un geste plein de sens qui se répand en quelques heures sur les réseaux sociaux. C'est viral comme les hashtags, comme le moi aussi hein, du mouvement MeToo que l'actrice, devenue en quelques mois la porte-parole du mouvement contre les violences sexuelles à l'encontre des femmes, reprend en titre de son film court-métrage. Il y a cet engouement hein, en parallèle pour le combat contre les VSS, une lutte qui retrouve sa dynamique et sa dynamite qui avait déjà secoué en 2017 et qui depuis ne cesse de faire des remous et d'agiter l'actualité. Parce que les violences sexistes et sexuelles font bien évidemment partie du quotidien des femmes, de toutes les femmes. Et donc il y a cette affiche qui crée à raison la polémique parce qu'elle montre une marée humaine, blanche, valide, invisibilisant toutes les femmes racisées, là où ces dernières rappellent que le hashtag MeToo avait été lancé en 2007 par Tarana Burke, hein, militante féministe afro-américaine, et invisibilisant au passage également toutes les femmes handicapées, là où ce sont elles qui subissent le plus de violences sexuelles. Ça nous ramène au geste d'Adèle Haenel qui, face au sacre de Polanski au César en 2020, se lève et se barre en criant la honte, suivi de près par Céline Sciamma. Ça nous ramène à son geste puissant, bien évidemment, mais aussi à l'invisibilisation lors de la même cérémonie d'Aïssa Maïga, qui dans son discours avait pointé l'absence des femmes noires dans le cinéma français et l'absence de rôle déconstruit des stéréotypes sexistes et racistes. Les femmes blanches d'abord, toujours. Comme si on retenait pas la leçon, comme si l'histoire ne cessait jamais de se répéter, un processus flippant et usant. À la fin de « Moi aussi », en voix off, Judith Godrèche explique qu'après avoir brisé le silence en février 2024, elle a créé une adresse mail pour accueillir la parole de celles et ceux qui écrivaient ce fameux « Moi aussi ». En 15 jours, elle a reçu 5000 témoignages et elle a tourné sur une avenue parisienne le 23 mars 2024 avec 1000 de ces personnes. Alors mon objectif, il n'est pas d'incriminer Judith Godrèche en soi, c'est pas le propos. Je rejoins totalement Le propos de Mélanie Gourarier, hein, anthropologue et féministe qui était présente sur le dernier mardi de l'égalité de la saison, en avril dernier à Rennes 2, qui dit « faut viser les lunettes plutôt que les personnes ». Elle se réfère bien évidemment aux lunettes hein, qui nous permettent de voir le monde de telle ou telle manière. On parle beaucoup de chausser les lunettes de l'égalité, ce qui signifie regarder la société dans son fonctionnement et ses mécanismes sexistes à l'œuvre. Ça s'applique aussi pour le racisme, le validisme, etc. Donc il s'agit vraiment ici, dans le cadre de cette critique non seulement à cette affiche, moi aussi à l'ensemble du court-métrage réalisé, d'attirer l'attention, d'essayer de décrypter en fait les mécanismes qui sont à l'œuvre. Parce que l'initiative, sans conteste, elle est militante. Ôter les bâillons qui oppriment les personnes victimes de violences sexuelles, enfants, femmes, hommes, et faire participer les personnes concernées. Faire exister leur visage, leur corps, leur voix, à travers leur silence, leur vécu et leur ressenti. Et surtout, montrer la foule, la masse, l'expérience collective, mais aussi la force qui en émane pour lutter ensemble contre un système oppressif et patriarcal. Alors oui, on peut se dédouaner en disant que seules les personnes volontaires sont venues au tournage, mais on ne peut pas ne pas s'interroger sur pourquoi la majorité des personnes sont blanches et a priori valides. Pour moi, le propos, il est biaisé en fait par cet aveuglement, par ce déni, qu'il soit conscient ou inconscient, de blanchité, au nom du fait que ce qui nous réunit, c'est avant tout d'être femmes. En 2024, on le sait, l'expérience du genre féminin est intimement liée à la couleur de peau, à l'origine réelle ou supposée, au handicap, à l'identité de genre, à la classe sociale, à l'orientation sexuelle ou affective, à la religion. Bref, on ne peut pas scinder les identités en fragments et se détacher d'une partie de soi pour ne vivre que la discrimination du genre. Ou alors, c'est qu'on appartient à une catégorie hyper privilégiée. Et on ne peut pas fermer les yeux sur les privilèges que nous avons en tant que femmes blanches. D'autant quand on évolue dans des sphères proches du pouvoir, dans des sphères économiques déconnectées de la réalité, de la majorité des personnes auxquelles on s'adresse. On ne peut se départir de sa responsabilité en tant que privilégié. On ne peut plus penser à la théorie du ruissellement, adaptée aux femmes évidemment, hein, dont la rappeuse Kazé faisait état lors de la lecture concert Trouble à l'Antipode en mai dernier, aux côtés de Béatrice Dalle, Virginie Despentes et le groupe Zéro. On ne peut pas en fait lutter contre les violences sexistes et sexuelles sans interroger l'imbrication des stéréotypes sexistes, racistes, validistes, classistes, LGBTI-phobes, etc. Sinon, on laisse sur le carreau une grande partie des concernés. Dans moi aussi, je suis choquée de voir plus d'hommes que de femmes racisées et de femmes handicapées, même si je suis bien consciente que tous les handicaps ne se voient pas sur un visage. L'image renvoyée de cette foule, c'est une masse de femmes blanches valides aux singularités effacées au profit d'un collectif uniformisé par son expérience des violences sexuelles. J'adhère pas à la vision proposée et présentée. Alors heureusement, c'est un peu moins le cas avec la tribune parue dans Le Monde, hashtag MeToo, on persiste et on signe, initiée par une centaine de personnalités pour exiger une loi globale contre les violences sexistes et sexuelles. La tribune pointe l'augmentation en 4 ans à peine du pourcentage des affaires de viol classées sans suite, passant de 86% en 2016 à 94% en 2020, selon une étude menée par l'Institut des politiques publiques. Et cette tribune, elle dénonce les violences sexuelles dans tous les milieux de la société et toutes les strates de la population, je cite. Nous demandons une loi intégrale qui permettra de clarifier, entre autres, la définition du viol et du consentement, introduire celle de l'inceste, de juger les violeurs en série pour tous les viols connus, d'élargir les ordonnances de protection aux victimes de viols, de faciliter la collecte de preuves, de créer des brigades spécialisées, d'interdire les enquêtes sur le passé sexuel des victimes, de permettre un accès immédiat et gratuit à des soins en psychotraumatologie, de donner enfin les moyens financiers à cette politique publique et aux associations qui la mettent en place. Fin de la citation. Donc, au niveau de la loi, de l'intégration de la notion de consentement dans la loi sur le viol, la question des moyens financiers, évidemment, la formation et l'information des forces de l'ordre et de la justice, tout ça sont des points essentiels et fondamentaux pour lutter efficacement contre les violences sexuelles. Ça fait beaucoup et c'est vertigineux, mais aussi c'est très joyeux parce que de nombreuses réflexions émergent, y compris des opinions, comme celle de Manon Garcia par exemple, qui défend pas forcément la description du consentement dans la loi sur le viol. Ça crée des discussions et des débats très utiles et très enrichissants au sein du mouvement féministe, je précise, parce qu'il s'agit pas des débats médiatiques biaisés par l'absurdité du choix des pseudo-experts en tout et n'importe quoi. Bref, avec Célian, cofondateur du magazine YEG, on travaille actuellement sur le sujet et on vous invite bien évidemment à lire dans les semaines à venir notre article dans le prochain numéro de YEG sur yegmag.fr. Je tease.
Mais vous avez bien raison, Marine. Carrément. Merci beaucoup pour cette chronique si bien écrite comme toujours. On va faire une nouvelle pause musicale sur Canal B dans Les Héroïnes. On va écouter le deuxième extrait que j'ai choisi dans la compile concoctée donc par l'artiste musicienne Émilie Rougier. Je l'ai dit, c'est l'aboutissement de son long recensement des musiciennes rennaises et de son c'est la suite en fait du Matri Music Partie 2 qu'elle avait fait au Jardin Moderne en mars. Et moi j'ai choisi dans cette compile un deuxième morceau qui s'appelle Typical et c'est l'artiste Carigos. Carigos avec son titre Typical sur Canal B dans les héroïnes. Alors maintenant, moi, je vous propose un petit jeu. Voilà, je suis la caution politique, hein, vous savez, Marine, comme la politique compte dans ma vie. Tout est politique. Et ce jeu s'appelle « Mais où est Aurore ?» Mais où est donc Aurore Berger, ministre chargée de la lutte contre les discriminations ? Elle, d'habitude, si prompte à tweeter, commenter, donner son avis sur tout, mettre son grain de sel partout, ben on l'entend plus alors que les discriminations, elles galopent partout. C'est ballot de ne plus entendre Aurore Berger au moment où le Sénat vient d'adopter, à 180 voix contre 136, c'était mardi, la proposition de loi de la droite visant à interdire aux mineurs toute transition médicale, tout traitement hormonaux et le contrôle strict des prescriptions de bloqueurs de puberté. Une proposition de loi transphobe dénoncée par la défenseure des droits Claire Hédon qui y voit un risque de porter atteinte au droit à la santé des mineurs trans ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette proposition de loi s'appuie sur un rapport parlementaire biaisé réalisé par la psychologue Céline Masson et la pédopsychiatre Caroline Eliachef, autrice de l'essai « La fabrique de l'enfant transgenre ». Tout est dit dans le titre. Dans cet ouvrage, elle dénonce les soi-disant dérives du transgenrisme, attention, et le poids de la culture LGBTQIA+, bien sûr, des autrices qui ont été rémunérées par les LR porteurs de la proposition de loi. Elles ont été payées pour écrire ce rapport. Et comme souvent dans ce genre d'affaires, ben, les principaux et principales concernées n'ont pas été consultées, ni les associations, ni le personnel médical spécialisé. Et là, on est en droit de se demander, mais où est Aurore ? Où était Aurore Berger mardi soir ? Bah, pas au Sénat en tout cas, alors qu'elle est chargée de la lutte contre les LGBT-phobies. Je ne l'ai pas entendue non plus, Aurore Berger, quand on a appris qu'un homme avait été arrêté à Bordeaux alors qu'il prévoyait une tuerie de masse dans la cité girondine, un acte motivé par sa haine des femmes. Le garçon arrêté se revendiquant incel, c'est-à-dire involuntary celibate, célibataire involontaire. C'est une mouvance masculiniste et misogyne, adepte du viol et des violences faites aux femmes, considérant que tout est de leur faute aux femmes, et notamment leur célibat, notamment le fait d'être encore puceau à 25-30 ans, bah, c'est de la faute à qui ? C'est de la faute aux femmes. Je n'entends pas non plus Aurore Berger, pourtant ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, quand le 28 mai, il y a 4 jours, 59 féminicides avaient déjà été perpétrés en France depuis le début de l'année et dont les auteurs sont pour la plupart du temps connus des services de police, voire ont déjà des poursuites judiciaires aux fesses pour violences conjugales. 59 femmes tuées en raison de leur genre, ça fait près de 3 féminicides par semaine, ça fait 12 par mois, ça fait trop. Alors je sais bien, certains me diront ça fait du bien de ne pas entendre Aurore Berger, mais je vous rappelle qu'elle est quand même ministre chargée de lutter contre les discriminations et de l'égalité femmes-hommes, et donc c'est quand même un peu dommage. Mais je crois qu'elle est plus préoccupée de faire la pub de la Macronie pour les européennes. Je crois que c'est ça son boulot en ce moment. Voilà, les héroïnes, ma chère Marine, c'est terminé pour aujourd'hui. On n'oublie pas d'aller lire YEG sur yegmag.fr. On n'oublie pas demain, samedi 1er juin, de 14h à 19h à la Trappe-Rêve, 37 rue Saint-Melaine à Rennes, le marché des curiosités organisé par Tess et Amy, Hémisphère, qu'on recevait en début d'émission, créatrice LGBTQIA+. Et puis, le 15 juin, à Rennes, c'est la marche des fiertés. La semaine prochaine, je vous propose une héroïne spéciale avec des lycéens et des lycéennes surtout. Nous, on devrait revenir le 14 juin peut-être, la veille de la marche des fiertés. Le 5 juillet, c'est sûr, avec Emma et Suzanne pour peut-être une fin de saison. On ne sait pas si on en fait d'autres. En tout cas, d'ici là, ben, bon week-end à toutes et à tous. À bientôt. Bisous.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sang. I fall, I fight. allons vers la même lumière, nous buvons le même venin. As-tu décidé d'un cimetière que je réserve dans le même coin? I fall at five, reaching the above, forever went away. I fall at five, reaching the above, forever went away.
Canal B 94.0.